France Culture. France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir consacrée à la notion de prisonnier politique en France. Y a-t-il encore des prisonniers politiques en France ? Ce matin, avant l'aube, vous l'avez entendu, Georges Ibrahim Abdallah a été libéré après plus de 40 années passées derrière les barreaux. Libérable depuis 1999, l'ancien chef des fractions armées révolutionnaires libanaises est arrivé à Beyrouth dans l'après-midi où il a été reçu par ses soutiens. Condamné en 1987, Georges Ibrahim Abdallah est devenu, au fil des ans et des refus de liberté conditionnelle, un symbole, celui du dernier prisonnier politique de France. Prisonnier politique, c'est cette expression donc qui nous intéresse dans Question du soir. L'idée s'accole aisément au régime iranien, à la figure d'Alexei Navalny ou celle de Boualem Sansal, mais le poser sur notre régime démocratique crée une dissonance, comme si détention politique et démocratie étaient de fait contradictoires. Alors est-ce vraiment le cas ? La France a-t-elle eu, a-t-elle encore des prisonniers, des détenus politiques, sous quel régime juridique et en vertu de quel esprit des lois ? Pour en avoir le cœur net, trois invités avec nous ce soir. Et en studio, Ari Halimi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez publié récemment Le coup d'état d'urgence aux éditions du Seuil, c'était en 2021. Et plus récemment encore, L'état hors la loi aux éditions de la Découverte, cette fois-ci en 2023. À vos côtés, Olivier Kahn, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit pénal à l'Université de Nanterre. Et vous avez co-dirigé avec Julie Alix Terrorisme et infractions politiques, c'était aux éditions Mar et Martin en 2021. Merci d'être avec nous. Et enfin, à distance, Alain Marceau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien chef du service central antiterroriste entre 1986 et 1989, l'un des fondateurs en réalité, magistrat du parquet lors du procès de Georges Ibrahim Abdallah, également ancien député UMP, devenu Les Républicains, de la 10e circonscription des Français de l'étranger. Merci beaucoup de vous être connecté à Question du soir. Et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
Il n'y a pas de prisonniers politiques en France. On peut penser ce que l'on veut de la politique du gouvernement, on peut penser ce que l'on veut de tel ou tel pan de l'action publique du gouvernement actuel comme de tous les gouvernements de la Ve République. Il n'y a pas de prisonniers politiques en France.
Monsieur Christian Théin et les autres indépendantistes kanak en prisonniers en France, transférés de l'autre bout du monde en France, sont des prisonniers politiques.
Il y a une nouvelle génération qui a émergé, qui aujourd'hui porte le nom de Georges Ibrahim Abdallah, comme il porte le nom de l'ensemble des prisonnières et des prisonniers politiques palestiniens.
Après près de 41 ans, le plus ancien prisonnier politique d'Europe, le plus ancien prisonnier lié au conflit du Moyen-Orient, même en Israël, il n'y a pas de détenus qui ont fait cette peine, qui sont encore en détention. Aujourd'hui, oui, en 2025, on peut dire que c'est une victoire qui sort à 74 ans. Depuis le départ, ce procès est monté avec un avocat qui travaille pour la police.
Il n'y a pas de prisonnier politique en France, il y a une justice. Et cette justice, elle est indépendante, elle est impartiale, elle a fait son travail en condamnant. Reconnu coupable par la justice française parce que complicité de crimes terroristes pour deux personnes qui ont été assassinées. La société que nous voulons n'est pas une société qui fait l'apologie du terrorisme.
Voilà, pour poser plus encore les termes du débat, ce petit montage, vous avez peut-être reconnu les voix de Constance Le Grip, rapporteur de la proposition de résolution appelant à libérer Boualem Sansal, de Bastien Lachaud, député de la France Insoumise, du porte-parole du collectif Palestine Vaincra, de l'avocat de Georges Abdallah et enfin de la ministre Aurore Berger. Alors l'actualité, vous l'avez compris, c'est cette libération de Georges Ibrahim Abdallah ce matin. Alain Marceau, je rappelle que vous étiez magistrat du parquet lors du procès. Alors, quel était votre rôle dans ce procès ? Pouvez-vous nous rappeler comment cela s'est passé ? Et diriez-vous aujourd'hui, avec le recul des 40 années de distance, que ce procès avait une teinte politique ?
Oui, j'étais à la fois juge d'instruction au départ et ensuite procureur en charge de l'organisation du procès. J'allais vous dire que nous étions dans une affaire calme au départ d'assassinat de diplomates et tentative d'assassinat d'un troisième. Que l'affaire s'est déroulée en application du code de procédure pénale tel qu'il avait été rénové en 1986, faisant suite tout simplement à la disparition de la Cour de sûreté de l'État qui pouvait être considérée à tort ou à raison comme une juridiction politique.
Qui avait été supprimée par François Mitterrand, oui.
Absolument. Donc en 81, et effectivement, il y a eu une période pendant 5 ans où effectivement nous avions des attentats de nature terroriste et autres qui ne pouvaient pas trouver véritablement de solution en termes de en termes de succès. Et il a fallu modifier la loi. Alors est-ce qu'effectivement nous avons bien fait de la modifier? Je le crois, et c'est grâce sans doute à la modification de cette loi, la mise en application des nouvelles dispositions, que nous avons réussi à mettre fin à un certain nombre d'activités de réseaux terroristes. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas seulement l'affaire Abdallah, il y avait Abou Nidal, il y avait Action Directe, etc. Et Dieu sait qu'il y avait des morts sur les pavés parisiens et ailleurs.
Oui, il faut rappeler peut-être le contexte. Hein. Abdallah a été condamné en 1987, vous l'avez dit, pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates à Paris, le lieutenant-colonel américain Charles Rey et Yaakov Barsimentov, deuxième secrétaire de l'ambassade d'Israël. Lui a toujours clamé son...
Tentative d'assassinat aussi du consul général des États-Unis à Strasbourg.
Absolument. Je précise que Georges Abdallah a toujours clamé son innocence tout en assumant son plein soutien politique de ces meurtres. Alors je me permets de vous reposer la question, Alain Marceau. Quelle était la place de la politique dans ce procès? Est-ce que elle a fait irruption dans la défense et dans l'accusation menée par le parquet?
Oui, sans doute, c'est certain. Moi, à titre personnel, je me suis entretenu à trois reprises avec Georges Ibrahim Abdallah. Une fois, je l'ai perquisitionné à la prison de Clairvaux, et ensuite, je l'ai fait mettre en garde à vue. J'ai assumé la garde à vue à 2 reprises à Paris. Il est bien évident que nous étions dans un contexte éminemment politique, puisque je vous rappelle que à cette époque, nous avions des attentats dans toutes les rues de Paris. Il y avait eu l'affaire de la rue de Rennes et 10 d'autres attentats.
6 attentats en l'espace d'un an, qui avaient fait 11 morts et près de 200 blessés à Paris.
Oui. Et il n'en était pas ni l'auteur ni complice. Il y a eu une erreur, j'allais dire, dans la direction de l'enquête au tout début, puisque lui, il était bien l'auteur ou le complice des assassinats ou tentatives d'assassinat des 2 diplomates ainsi que de l'affaire de Strasbourg. Mais il n'avait strictement rien à voir avec la série d'attentats qui ont eu lieu en 1985-1986. Mais il était soupçonné, comme d'autres d'ailleurs au demeurant. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des mesures de nature coercitive à son égard, et il a été condamné pour ce qu'il avait fait, pas pour ce qu'il n'avait pas fait. Donc j'allais dire que la justice dans cette affaire n'a pas eu trop de raisons de se reprocher quelque action que ce soit. Je crois véritablement que le travail a été effectué normalement et sans qu'il soit porté atteinte à la personne de M. Abdallah. Écoutez, je crois de toutes les personnes présentes sur ce plateau, je suis le seul à l'avoir, comment dirais-je, bien connu. J'ai eu des relations avec lui qui au départ ont été peut-être tendues, mais qui après sont devenues des relations normales, de mise en examen par rapport à un procureur.
Olivier Kahn, sur ce procès Abdallah, il y a eu des irrégularités qui sont remontées, notamment le fait que le premier avocat de Georges Ibrahim Abdallah, Jean-Paul Mazurier, était en réalité un agent des services de renseignement français. C'est Mazurier lui-même, dans un livre intitulé « L'agent noir », qui a révélé qu'il travaillait avec le renseignement français tout en assurant la défense de Georges Abdallah.
Oui, absolument. Je ne peux rien ajouter à ça. C'est à ma connaissance le seul cas connu dans lequel un avocat a fini par révéler qu'il était en contact direct avec les services de renseignement pendant le temps où il assurait la défense d'un individu qui était, enfin, dans une situation où un certain nombre d'éléments recueillis contre lui l'avaient probablement été par les 10 services.
Qu'est-ce que cela dit de l'articulation entre droit et politique? Est-ce que dès le départ, Georges Abdallah était considéré comme il se décrit lui-même comme le manoukian des temps modernes, mais est-ce que déjà dans le débat public, au moment de sa condamnation, il était considéré comme un prisonnier politique, ou cela est-il venu plus tard?
Non, je crois vraiment que c'est plus effectivement ce contexte du début des années 80. Dans lequel, comme l'a rappelé le juge Marceau, on a énormément d'attentats, on a énormément de faits de terrorisme, de diverses origines, à la fois du terrorisme d'extrême gauche, du terrorisme d'importation de conflits étrangers, du terrorisme d'extrême droite aussi. Et donc on est dans une situation extrêmement tendue en la matière, et d'autant plus tendue qu'effectivement, comme il a été rappelé aussi, la Cour de sûreté de l'État, qui jusqu'à présent avait géré ces affaires terroristes et qui étaient pour le compte véritablement une juridiction politique, puisqu'il faut quand même se souvenir que on était renvoyé devant la Cour de sûreté de l'État par décret du garde des Sceaux, après que les magistrats aient fini leur travail.
Par décret de l'exécutif.
C'était l'exécutif qui renvoyait devant la Cour de sûreté de l'État, donc c'était à proprement parler une juridiction politique. Elle est supprimée en 1980 avec cette idée que le terrorisme et les infractions que jugeait la Cour de sûreté de l'État sont des crimes et que pour juger les crimes, on utilise le droit pénal et pas du droit d'exception. Et puis, effectivement, comme il a été rappelé aussi, on aura cette difficulté essentiellement liée aux conditions d'exécution des procédures et entre autres des problèmes de compétence territoriale des procureurs qui éclataient la compétence sur différents tribunaux alors même que les attentats étaient l'objet ou enfin étaient pardon perpétrés par les mêmes groupes et donc il aurait été préférable d'avoir une vue d'ensemble de leur activité qui conduira à la loi de 1986. Mais on ne peut pas considérer qu'au début le procès d'Abdallah est politique. En revanche, le contexte est extrêmement politique et ce qui se passe au moment du prononcé de la peine, où vous avez 10 ans maximum requis et où il prend perpète, est probablement en lien avec ça.
Ariel Halemi, comment expliquez-vous, puisque Georges Abdallah était libérable depuis 1989, que toutes ces demandes de libération conditionnelles depuis plus d'une dizaine, depuis 2001, toutes ces demandes aient été rejetées?
Alors, elles n'ont pas toutes été rejetées en réalité. Il y en a même eu un certain nombre qui ont été acceptées, et notamment pour la première en 2013, puisqu'il a été libéré sous condition. La juridiction, le tribunal d'application des peines de Paris. Et ce qui s'est passé, en réalité, c'est que s'il était libérable, c'était sous la condition qu'il puisse être, qu'il soit expulsé au Liban. Et ce qui a déterminé et motivé finalement le fait qu'il ne soit pas libéré et donc qu'il soit maintenu détenu par la suite, c'est que un ministre, et donc là on a une considération politique, une action politique, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, Manuel Valls, qui a tout simplement refusé, c'était le 10 janvier 2013, de signer le décret d'expulsion. Et là, on a une configuration assez particulière où la justice ordonne sa libération. Et l'exécutif, donc le politique, hein, le pouvoir politique en place, va empêcher sa libération ordonnée par la justice pour des considérations, pour le coup, exclusivement politiques. À savoir les éventuelles atteintes aux intérêts de la nation française, notamment au Liban, la résurgence éventuelle d'une action politique de Georges Ibrahim Abdallah au Liban, etc. Donc vraiment que des considérations politiques. Et c'est la seule raison pour laquelle il n'a pas été libéré. Ensuite, d'ailleurs, la justice est revenue sur sa libération en disant je peux plus l'éloigner donc il ne peut que rester en détention. Voilà pourquoi on peut aussi déjà commencer un petit peu à parler, même beaucoup peut-être, pour une raison là extrêmement objective de prisonnier politique à partir de ce moment-là.
Si comme le disait Alain Marceau à l'instant, il a été condamné dans le respect de la procédure du code de procédure pénale et en vertu du droit français, pour vous Ariel Halemi, à partir du moment où c'est un ministre, en l'occurrence Manuel Valls en 2013, qui a refusé sa libération, à partir de ce moment-là, on peut vous le considérer comme un prisonnier politique?
On peut même envisager de le considérer avant comme un prisonnier politique et de parler, contrairement à ce que j'ai pu entendre, parce qu'il y a plusieurs... D'abord, il faut savoir ce qu'on entend par politique. Infraction politique, prisonnier politique, est-ce qu'on entend par politique? Il faut définir le terme pour savoir de quoi on parle.
En détail. Là-dedans.
Mais vous avez une jurisprudence. C'est vrai que dans les textes, il n'y a pas d'infraction politique au sens propre du terme. Vous ne verrez pratiquement jamais le terme infraction politique ou prisonnier politique pratiquement jamais utilisé dans la loi, dans le droit positif. Il y a quand même de la jurisprudence et de la jurisprudence internationale ou européenne qui va évoquer la question de détenus politiques et notamment, vous avez une résolution 1900 du Conseil de l'Europe qui va définir expressément ce qu'est un prisonnier politique. Et pour résumer, on peut envisager l'idée de prisonnier politique avant que Manuel Valls refuse de signer le décret d'expulsion. On parle objectivement de prisonnier politique à partir de ce moment-là.
Alain Marceau, vous êtes d'accord avec ça? On parle objectivement de prisonnier politique à partir de 2013?
Ah mais Je vais vous raconter une scène vécue. J'étais député à l'époque, en 2013, et Manuel Valls, donc, je ne sais pas s'il était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, et effectivement, je me rends compte qu'on a refusé la libération. Je m'en vais le trouver, c'était juste après la séance de questions d'actualité. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore? Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, je me retourne en face d'un Premier ministre, il le nie actuellement, cet entretien. Plutôt, il n'a plus de souvenirs. Et il me dit, oui, mais tu comprends, les Américains s'y opposent. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est les Américains maintenant qui dirigent la politique pénale de la France? Mais qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas honte? Voilà, ça s'est passé comme ça et nous avons été d'ailleurs en très mauvais termes à partir de cette affaire. Donc, effectivement, je crois que, sincèrement, le ridicule, le disputer à l'inutilité, je crois qu'on était en présence de gouvernements successifs qui ne savaient plus trop où ils en étaient, s'il fallait libérer, pas libérer. Et je pense que, contrairement à ce qu'on raconte, la pression américaine n'était pas celle qu'ils décrivent. Je me suis rendu au département d'État en 2006 aux États-Unis. Et je peux vous assurer, pour avoir discuté avec les interlocuteurs qui étaient en charge notamment des grands problèmes de terrorisme internationaux, l'affaire Abdallah n'était pas une affaire majeure pour eux. Et entre nous, soit dit, ça leur est à peu près égal de ce qu'il allait devenir. À la limite, si la France voulait le garder, il le gardait. Donc je crois qu'effectivement, ce pauvre pays s'est empêtré dans une affaire dont il n'a pas su se sortir. Il s'en sort aujourd'hui, Dieu merci. Et puis voilà, je crois que c'est plus dû à la nullité de nos institutions et de nos hommes politiques qu'autre chose.
Mais alors, comment est-ce que vous expliquez, Alain Marceau, et merci pour cette confidence que vous nous faites sur votre échange avec Manuel Valls en 2013, comment est-ce que vous expliquez, par exemple, que la première ordonnance de libération de Georges Ibrahim Abdallah de novembre dernier, a été immédiatement suspendue par un appel du parquet national antiterroriste? Est-ce que c'était encore en vertu pression américaine? Est-ce que c'était encore en vertu de ce que vous appelez d'une politique déboussolée par rapport au cas Abdallah?
Je pense qu'ils ne savent plus où ils en sont. Et ils avaient peur. Et je pense, enfin, moi, je ne peux pas parler au nom de mes actuels collègues du parquet national antiterroriste, mais véritablement plus personne dans ce pays savait où on en était par rapport à ce dossier. Tout le monde avait peur de prendre une décision. Et puis voilà, Dieu merci. Bon, il y a un juge de l'application des peines qui a décidé. Il y a eu un appel qui est inopérant d'ailleurs, puisque le fait de faire appel n'empêche pas la mise en liberté, puisque ça a été le cas. Donc je crois qu'effectivement on est en présence d'institutions qui ne sont plus opérantes. Il est temps peut-être de réviser tout cela et de mettre en place un système plus opérant.
Alors, nous parlons depuis le début de cette émission de Georges Abdallah, mais il y a d'autres exemples où la notion d'arrestation politique, de détention politique a été utilisée. Olivier Cahn, il y a l'exemple ces derniers mois de Christian Tain, on l'a entendu en introduction, leader indépendantiste kanak qui a été libéré le 12 juin, placé en détention provisoire à Mulhouse pendant un an après les violences qui avaient éclaté en Nouvelle-Calédonie. On peut penser aux militants écologistes de la désobéissance civile, mais aussi aux indépendantistes corses, aux membres de groupuscules de l'ultra-droite nationaliste, qui tous évoquent le mobile politique de la répression dont ils s'estiment être les victimes.
Oui. Alors, il faut opérer une distinction. Là, il faut entrer un petit peu dans le dur du droit. Vous avez des infractions politiques, au sens premier du terme, dans le code pénal. Vous avez quelques crimes qu'on reconnaît parce qu'ils sont punis d'une peine qu'on appelle la détention criminelle, et qui est en fait la réclusion criminelle appliquée aux infractions politiques. Et vous avez quelques délits que le législateur n'a jamais définis, au sens où il ne prévoit pas une peine d'une nature particulière, contrairement au crime, mais que la jurisprudence a défini comme étant politique, typiquement le délit d'attroupement. Bon, à partir du moment où les individus sont interpellés sur le fondement d'autres qualifications que les qualifications politiques du code pénal ou les qualifications politiques identifiées par la jurisprudence, ce ne sont pas des infractions politiques et ce ne sont donc pas des prisonniers politiques. Donc à ce titre, quand leur défense, par exemple, va évoquer le caractère politique des poursuites qui sont dirigées contre eux ou le caractère politique de leur détention, ça n'est pas en fait un problème juridique, c'est un problème d'invoquer l'idée que la justice serait aux ordres du politique.
Alors, quelles sont précisément les infractions politiques dans le code pénal?
Alors, vous avez des infractions qui sont des infractions anciennes, qui sont l'infraction de complot, qui sont l'infraction d'attentat, qui sont l'infraction d'insurrection, principalement ces trois crimes, et qui consistent donc
schématiquement, systématiquement, soit à préparer, soit à passer à l'acte, une rébellion armée contre l'autorité aux fins de bouleverser les institutions.
Alors, rébellion, attentat, complot, est-ce que ce vocable-là, aujourd'hui, ne s'attache pas à d'autres types de délits, Ari Halimi, en particulier les délits de terrorisme? Quand j'entends complot, attentat, est-ce que c'est pas pour cela que l'on traque et que l'on condamne, si cela s'avère avéré, des groupes terroristes?
Alors, évidemment, la notion de terrorisme est une notion qui est souvent apparentée par la doctrine, par les avocats, par les militants, à une infraction de nature politique. Alors, pas totalement, parce que elle est associée à un crime ou à un délit de droit commun. Et puis, il y a une connotation d'atteinte à l'organisation ou au fonctionnement des institutions de l'État ou de la sûreté. Et vous avez même des infractions, celles qui ont souvent été utilisées ces dernières années, comme l'association de malfaiteurs, en lien avec une entreprise terroriste, qui a élargi le champ et qui rend plus difficilement l'infraction liée à une action à une commission d'actes véritable, et qui permet d'appréhender un grand nombre de personnes en raison des liens ou de la préparation de certains actes avec des personnes qui auront commis des actes qui pourront commettre des actes terroristes. Donc, concrètement, le terrorisme est à la frontière du droit et de la politique. Ça n'est pas défini comme ça par le code pénal, bien évidemment.
Qu'est-ce qui fait que c'est à cette frontière-là pour vous, Ari Halimi, pour être le plus clair possible?
Pour être le plus clair possible, on ne sanctionne pas un acte criminel ou un délit uniquement. On sanctionne, au-delà de l'acte criminel ou du délit, on sanctionne le fait de vouloir atteindre les intérêts de l'État, de la nation ou de l'ordre établi. C'est ça qui est sanctionné au-delà même de l'acte de droit commun. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis un grand nombre d'années, il y a une forme de discrimination avec les délits de droit commun lorsqu'on les qualifie de terrorisme, puisqu'on les sanctionne de manière plus sévère, parce qu'il y a une législation et des procédures beaucoup plus restrictives aux libertés publiques lorsqu'il y a la qualification terroriste qui est adjointe à ce délit ou à ce crime. Et donc on considère que lorsqu'il y a une atteinte à l'État et lorsqu'il y a la qualification terroriste, que le crime est beaucoup plus grave que s'il s'agissait d'un crime de droit commun. Voilà comment on peut résumer un petit peu la situation en matière de terrorisme.
Alain Marceau, je rappelle que vous êtes l'ancien, parmi les fondateurs, ancien chef du service central antiterroriste entre 1986 et 1989. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que pose Ari Halimi, que, en dépit de la gravité des crimes, il y a, sur la méthode et sur la forme, une forme de discrimination entre quelqu'un qui entre dans l'ère, disons, juridique du terrorisme vis-à-vis d'une personne qui, pour le même crime, resterait dans l'ère juridique, pardonnez mon vocabulaire très pauvre en la matière, de droit commun?
Oui, oui et non. C'est quoi la qualification terroriste? C'est le fait d'avoir commis un certain nombre de crimes ou délits avec des circonstances d'intimidation ou de terreur. C'est-à-dire, si vous tuez quelqu'un dans la rue, un passant, ce n'est pas terroriste. Si vous tuez ce même passant avec une intention de déstabilisation de l'État, de créer
donc c'est le mobile politique qui caractérise.
Ça devient un mobile politique. Mais je voudrais dire quelque chose à mettre à l'imi. Effectivement, oui, il a raison. C'est que prenons le cas de l'affaire des attentats de 1986. Dans l'affaire des attentats de 1986, le CSPPA, le Comité de solidarité avec des prisonniers politiques arabes, qui mettaient des bombes partout, y compris rue de Rennes, etc., enfin, on a eu une vingtaine de morts, demandait la libération de trois personnes, donc deux, en plus d'Abdallah, c'était Varoujian Garbidjian, qui était le patron de l'armée secrète arménienne de l'Arménie, qui était en détention pour un attentat où il avait tué une dizaine de personnes à Orly, et Anis Nakash, qui était sous commandite iranienne, qui était un palestinien sous commandite iranienne, qui avait assassiné ou tenté d'assassiner un opposant iranien qui s'appelait Chapo Bakhtiar, qui avait été plus ou moins premier ministre du Shah. Ces gens-là, j'allais dire bénéficiant de la circonstance de la lutte antiterroriste, ont été libérés au bout de 5-10 ans ou quelques années, justement parce que, tout simplement, dans le cadre d'affaires terroristes, il faut savoir que le pouvoir politique a tellement peur, ne sait pas quoi faire de ces condamnés, de ces détenus, qu'il organise, lorsqu'on est en matière de terrorisme international, je veux dire, mais il organise leur exfiltration, leur libération, bien avant qu'ils aient terminé leur peine. Donc j'allais dire que ça remet un tout petit peu en cause ce que disait Maître Halimi, même s'il a raison sur le fond. La circonstance politique permet finalement à la justice, aux institutions gouvernementales en fait, qui dirigent parfois la justice, de faire tout et n'importe quoi, à l'encontre tout simplement des intérêts bien compris des victimes et de l'ordre public.
Et ce statut de prisonnier politique, cette circonstance politique qui fait des détenus à part, ça s'inscrit dans une longue histoire politique française, dans une longue tentative de cerner cette question du lien entre mobile politique d'un délit et définition de l'infraction politique.
Oui, mais une histoire très particulière qui contribue à expliquer les difficultés que nous éprouvons aujourd'hui à définir. En fait, on peut situer deux périodes, deux moments de importants. La première période, c'est en 1830. Après donc les journées de 1830, va être adoptée une loi relativement libérale qui prévoit donc effectivement ce statut particulier de l'infraction politique et des sanctions politique.
Et il y a déjà d'ailleurs des mouvements vendéens.
Oui. Et alors cette loi a comme particularité de prévoir la grande particularité, c'est le régime de la sanction. C'est-à-dire, on supprime la peine de mort et on supprime les travaux forcés, quels que soient les crimes qui peuvent avoir été perpétrés dans le cadre de ces atteintes politiques. Et on prévoit un régime de détention très favorable. C'est-à-dire qu'à l'époque, les prisonniers sont en uniforme. On permet aux prisonniers politiques de ne plus être en uniforme. On leur permet la correspondance, l'accès à la presse et un certain nombre de privilèges.
Donc on les reconnaît comme tels.
On les reconnaît comme tels, mais attention, c'est-à-dire que ça c'est 1830 et dès les journées de 1848, lorsqu'on va avoir à juger les assassins du général Bréa, le parquet va immédiatement intervenir pour dire attention, eux, c'est pas des politiques. Eux, c'est des voyous qui s'habillent en politique et il faut leur appliquer la peine de mort. Ce que je veux dire par là, c'est que dès l'origine, l'infraction politique est un moyen d'une justice de classe. Et puis ensuite, on va arriver dans les années 60-70 et là, il va se jouer autre chose, c'est que dans les années 60...
De quel siècle, pardonnez-moi Olivier Kahn.
Pardon, 1970. Et là, il va se jouer autre chose, c'est que dans ces années, le prisonnier politique, c'est le symbole du Bloc de l'Est ou le symbole des juntes militaires. Et donc, il va y avoir un mouvement au niveau des démocraties libérales, le camp du bien ne peut pas avoir de prisonniers politiques, puisqu'admettre qu'on a des prisonniers politiques fait que on s'assimilerait au camp que nous avons en face de nous. Ceci dit, on a encore, lors de ces procès, la discussion de la dimension politique. C'est-à-dire que le mobile politique est encore discuté, alors qu'on a vu récemment dans les procès islamistes, par exemple, qu'on en est arrivé à un moment où le parquet refuse même de discuter le mobile politique ou d'entendre le mobile politique.
Ari Halimi.
Effectivement, il y a eu une évolution historique de la notion de terrorisme et de l'appréhension du caractère politique de l'infraction. On a même aujourd'hui une volonté de la justice et du pouvoir hein, de dépolitiser l'infraction, de considérer qu'il n'y a pas, qu'il n'y a ni délit, ni crime politique. Et d'ailleurs, le mot n'apparaît que très peu dans le droit positif. Cette volonté, elle consiste à finalement retirer toute légitimité à l'action politique. Contestataire, j'entends. Ce fut le cas d'ailleurs, et ça a été le cas pour le terrorisme régional et régionaliste, le terrorisme basque, corse, qui s'est vu contester, y compris le caractère de guerre ou de contestation politique. Après, vous avez effectivement, et y a toute cette histoire qui naît au moment des lois scélérates, avec le mouvement anarchiste et avec les attentats terroristes anarchistes qui va donner naissance en réaction à trois lois dites lois scélérates après la loi de 1881 qui était la loi sur la presse et qui était assez protectrice finalement de l'expression publique. Vous avez trois lois, celle du 11 décembre 1893, celle du 15 décembre 1893 et celle du 28 juillet 1894 qui vont créer notamment des sanctions et des peines, l'apologie du terrorisme par exemple. hein, va être créée par la première loi du 11 décembre 1893. Elle va être introduite dans la loi de 1881 et vous voyez qu'il va y avoir un régime de sanctions extrêmement important, pas uniquement à l'égard des actes que l'on peut qualifier de terrorisme, comme le fait de poser une bombe pour porter atteinte aux intérêts de la nation ou de l'État ou pour tuer le plus grand nombre pour commettre une terreur, mais également par rapport à l'expression de soutien ou de revendication politique. Et puis, vous allez avoir une contestation immédiate. Vous allez avoir d'ailleurs la Revue Blanche, la Ligue des Droits de l'Homme, Ludovic Trarieux, Francis de Pressensé qui vont dire qu'il faut absolument lutter et en terminer avec ces lois scélérates. Et ce ne sera que beaucoup plus tard, je crois que c'est en 1992 qu'on en terminera avec une partie des lois scélérates, mais certaines sont restées inscrites dans le droit positif.
Cette manifestation interdite a vu jusqu'à 4000 personnes. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des objets contondants, des mortiers. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente relevait d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation, avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre.
Vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission, vous l'aurez compris, consacrée ce soir à la notion de prisonnier politique, de l'infraction politique suite à la libération de Georges Ibrahim Abdallah, en compagnie d'Ari Halimi, avocat, vice-président de la Ligue des Droits de l'Homme, d'Olivier Kahn, professeur de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre, et Alain Marceau, ancien chef du service central antiterroriste, magistrat du procès de Georges Abdallah, également ancien député UMP-LR des Français de l'étranger. Et nous venons d'entendre l'actuel garde des Sceaux, ex-ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'exprimait en 2022 à la suite des manifestations de Sainte-Soline. Le ministre décrit une situation d'affrontement. Il parle de fichés S. Il décrit la confrontation violente entre des manifestants et les représentants de l'État, en l'occurrence des gendarmes mobiles. Il parle également d'éco-terrorisme. Et une réaction, Ari Halimi, vous parliez de continuum dans le droit positif, de certaines dispositions de ces lois scélérates jusqu'au droit aujourd'hui. Qu'est-ce que dans l'usage sémantique du mot terrorisme de Darmanin, qu'est-ce que cela vous évoque ?
C'est un outil et un dispositif traditionnel de disqualification de l'action politique militante, de ceux qui contestent le pouvoir en place. Et donc le pouvoir en place va essayer systématiquement d'utiliser la qualification de terrorisme pour essayer de finalement criminaliser et faire rentrer dans le champ judiciaire pour être jugé et condamné, et donc délégitimer des personnes qui vont avoir une contestation, y compris une contestation pacifiste, de plus en plus une contestation pacifiste. Je pense à une affaire dont je me suis occupé pendant très longtemps, l'affaire de la mort de Rémi Fraisse sur la zone de Sivens, qui contestait un barrage, qui d'ailleurs a été considéré comme illégal par la suite par la juridiction administrative. Je me souviens du directeur de préfet de l'époque, celui qui avait donné les instructions d'utilisation des grenades qui ont tué Rémi Fraisse cette nuit-là, qui parlait qui expliquait, hein, dans une réunion, qu'il avait vu des drapeaux de Daesh sur la zone de Sivens, qui parlait de djihadistes verts. Et donc vous avez toute cette sémantique qui consiste finalement à identifier une contestation pacifiste et pacifique d'écologistes, beaucoup, souvent les écologistes d'ailleurs, pour les délégitimer, voire éventuellement pour agir violemment contre eux, comme ce fut le cas à Sainte-Soline.
Vous souhaitez réagir, Alain Marceau ?
Non, pas par rapport à cela. J'allais dire, là-dessus, on peut tout dire. Bon, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent, et j'allais dire, dans l'actualité, j'espère que cela a attiré ou va attirer votre attention. Pour tous les amis des droits de l'homme, il faut savoir qu'il y a quelques instants, la Cour de cassation vient de rendre une décision extrêmement importante. La Cour de cassation française, la juridiction supérieure, elle vient d'annuler tout simplement le mandat d'arrêt qui avait été émis par les institutions françaises, par la justice française, contre Bachar el-Assad. Sans doute, peut-être au nom des droits de l'homme, je ne sais pas exactement, mais enfin, quand on sait qui est Monsieur el-Assad, qui est quand même l'un des plus grands criminels de ce siècle, sans parler de son fils au demeurant, il y avait une procédure qui avait été intentée devant les juridictions françaises parce qu'effectivement, il nous apparaissait à tort ou à raison que l'on pouvait essayer de demander des comptes à toute la famille Assad.
Alors,
qui a assassiné.
Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Comment est-ce que cela, selon vous, Alain Marceau, s'attache à notre conversation?
Ça se raccroche totalement à notre conversation, à savoir que des fois qu'on penserait qu'on n'est pas dans un état de droit, je vais dire que la Cour de cassation vient par cette décision montrer combien effectivement elle est sourcilleuse et combien elle est attentive pour protéger certains criminels. Je crois que tous ceux qui ont peur, on vient de protéger M. Assad.
Bien sûr. Donc c'est-à-dire que lorsque Arié Halimi s'inquiétait à l'instant de l'élargissement disons d'une justice qui aurait des motivations politiques ou en tout cas
Elle est pas très précise, poussée, la justice,
poussée par l'exécutif. Vous dites voilà un exemple qui montre bien que les droits, l'état de droit et les procédures sont respectées de manière
absolument. Et qu'à mon avis,
l'exécutif
et que l'exécutif n'est pas intervenu dans cette affaire parce que ça doit arranger personne.
Bien évidemment.
En tous les cas, c'est par l'honneur de la justice.
Hein. Alors Olivier Kahn, qui est en face de moi dans le studio 341 de la Maison de la Radio, dit non de la tête.
Oui, non. Enfin, j'attendrai d'avoir lu la décision de la Cour de cassation avant de me prononcer très précisément. Mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Ça a à voir avec un principe du droit international public qui est le principe d'immunité. Et je vais donc aller lire la décision. Et je ne suis pas du tout certain, pour côtoyer assez régulièrement des juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que leur conception des droits de l'homme aille jusqu'à dire qu'il faut protéger les droits de l'homme de Bachar el-Assad de la manière dont le sous-entend de manière assez déplaisante Monsieur Marceau. Moi, j'aimerais revenir sur cette histoire de Darmanin. D'abord, effectivement, on est un état de droit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le ministre de l'Intérieur, plus le ministre de l'Intérieur, qui décide qui est terroriste ou ne l'est pas, mais c'est aujourd'hui le parquet national antiterroriste par interprétation des dispositions du code pénal.
Le PNAT, qui a été créé en 2019.
Créé en 2019, et dont on peut dire aujourd'hui
qui a absorbé,
qu'effectivement, c'est lui qui décide ce qui est terroriste ou non. Pourquoi? Et c'est là qu'effectivement l'épisode que vous avez diffusé, Sainte-Soline, est intéressant, parce que la définition du terrorisme en droit français est telle que, au moins pour un certain nombre de comportements de violence politique assez importante, on avait à Sainte-Soline des violences dirigées contre les forces de l'ordre qui étaient importantes, effectivement, la qualification terroriste pourrait tout à fait s'appliquer. Et quand la chambre criminelle a été appelée à se prononcer là-dessus, en 2017, dans l'affaire de Tarnac, elle a refusé de le faire. C'est-à-dire qu'elle a laissé la porte ouverte à la possibilité de ne pas distinguer entre violences politiques et terroristes. Ce que ne font pas d'ailleurs les services de renseignement, qui eux ont des typologies très bien définies, permettant de distinguer le terrorisme, l'action directe, la subversion violente et la désobéissance civile. En tous les cas, donc, ce qu'il y a d'extraordinairement déplaisant dans le discours de Gérald Darmanin que vous avez diffusé, c'est cette façon, et ça me permet de prolonger ce que disait Arié Halimi, cette façon que qu'a le politique en prétendant assimiler toute forme de violence politique au terrorisme, de chercher lui-même à définir ce qui est politique ou ne l'est pas. Puisque le terrorisme n'est pas politique, alors je vous qualifie terroriste, et donc vous n'êtes pas politique. Et donc, ainsi, je définis moi, exécutif, ce qui est politique ou ce qui ne l'est pas. Et c'est exactement la même logique que celle qu'avait déjà eu Gérald Darmanin précédemment, quand il avait dit, vous vous en souvenez, alors qu'il a fait Sciences Po, donc il savait à peu près de quoi il parlait, quand il avait dit que la violence légitime, le monopole de la violence légitime n'appartenait qu'à l'État, et que c'était vieux comme Weber, ce que n'a jamais dit Weber, mais c'est cette façon de dire, seul l'État a le droit d'utiliser la violence, seul l'État dispose de cette violence légitime, et je définis, moi, État, ce qui est politique ou ce qui ne l'est pas, et quand j'estime que ça n'est pas dans le champ politique, eh bien je bascule ça dans le champ du terrorisme.
Arié Halimi, il y a une définition, je crois que vous l'avez évoquée tout à l'heure, de prisonnier politique par le Conseil de l'Europe, une définition de 2001, réaffirmée en 2012. Alors, elle donne, voilà, la violation des garanties fondamentales, les raisons qui seraient purement politiques dans le cas d'un État tout à fait autoritaire qui, par exemple, mettrait en prison des journalistes, des opposants, la durée ou la condition disproportionnée de la détention, ce qui évoque le cas de Georges Ibrahim Abdallah, les discriminations, les irrégularités de procédure. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette définition du Conseil de l'Europe de ce qui est prisonnier politique exclut explicitement le terroriste. Alors est-ce que comment est-ce que joue cette on pourrait presque y voir un paradoxe, puisque Olivier Kahn vient nous expliquer que c'était cette notion floue de terroriste décidée par le parquet lui-même qui définissait ce qui était terroriste ou pas et ce qui permettait potentiellement de transformer des actions violentes politiques en actions terroristes. Et là, on a une définition de ce qu'est un prisonnier politique. Il nous dit c'est tout sauf ceux qui sont condamnés pour des actions terroristes. Il n'y a pas une impasse, là?
Je ne crois pas qu'il y ait une impasse. Je pense qu'il faut penser l'infraction politique ou le prisonnier politique avec d'abord, par principe, effectivement, il n'y a pas expressément cette notion dans le droit positif, mais on peut la dessiner, cette notion, à travers des décisions de jurisprudence et à travers un certain nombre de normes, même extra-françaises, comme par exemple celle du Parlement, du Conseil de l'Europe que vous avez évoqué. Vous avez même une définition qui est donnée par le Conseil d'État, figurez-vous, le 23 février 90, c'est une décision justice qui dit « Une infraction est politique lorsqu'elle est dirigée contre l'organisation ou le fonctionnement des institutions de l'État ». Donc vous voyez que le droit, à travers les décisions, et il est obligé finalement à certains moments de se prononcer parce que les questions qui lui sont posées impliquent de se positionner sur ce qui est politique. Vous avez par exemple un article du Code de procédure pénale, l'article 696-4, qui dit que l'extradition n'est pas accordée, l'extradition d'une personne qui est demandée par un autre pays, dans le cadre d'une procédure pénale, lorsque le crime ou le délit a un caractère politique. Donc vous voyez que, bon an, mal an, même si on a essayé de dépolitiser, le législateur j'entends, et l'exécutif, de dépolitiser le droit, en considérant qu'il n'avait rien de politique, alors même qu'on peut affirmer que le droit est totalement politique, puisque ce sont des normes qui sont édictées par le Parlement et donc elles sont infiniment politiques. Eh bien, vous avez quand même des résurgences de cette idée d'infraction politique et de prisonnier politique à travers le droit et la jurisprudence, et se dessinent aujourd'hui de plus en plus, et notamment avec l'affaire de Georges Ibrahim Abdallah ou avec d'autres, ce qui est objectivement politique dans le droit.
Olivier Kahn.
Juste pour ajouter et compléter très rapidement, en 2016, le Conseil d'État, dans une affaire Ablyazov, reviendra aussi sur l'idée qu'il peut y avoir des demandes d'extradition de droit commun, mais motivées par des considérations politiques, et que à ce titre-là, on ne sera pas extradé. Elle refuse d'extrader vers la Russie un individu disant l'infraction de droit commun, en l'occurrence de la corruption, est en fait un masque pour dissimuler des poursuites politiques, et donc une action judiciaire politique.
Alors Alain Marceau, vous nous avez dit que vous considériez vous aussi qu'à partir de votre échange avec Manuel Valls en 2013, Georges Ibrahim Abdallah pouvait être considéré comme un prisonnier politique. En reste-t-il d'autres selon vous, Alain Marceau, rapidement?
Non mais je voulais poser une question à Monsieur Halimi, à Monsieur Kahn.
Si vous voulez bien, rapidement.
Je me suis rendu un soir sur
très rapidement, on arrive à la fin de l'émission.
C'était l'assassinat de Georges Besse, qui avait été assassiné par messieurs Rouillant Ménigon. Madame Ménigon, je leur ai posé la question, effectivement, ils m'ont expliqué qu'ils avaient assassiné monsieur Besse, tout simplement parce qu'il allait devenir président du commissariat à l'énergie atomique. Alors je pose la question à mes contradicteurs, est-ce que c'est un crime politique?
Alors, une réponse par un oui ou par un non, et ensuite, je voudrais juste savoir si pour vous, Georges Abdallah était oui ou non le dernier prisonnier politique d'Europe. Ariel Halimi, Olivier Kahn, et puis ce sera la fin de l'émission.
Ah bah, à partir du moment où on a une conception subjective de l'infraction politique, à partir du moment où l'on tue quelqu'un en raison de motivation politique, on peut éventuellement la qualifier de politique, bien évidemment.
Olivier Kahn.
Moi, je réponds pas aux questions idiotes. Mais...
Non, s'il vous plaît.
Non, mais c'est complètement... Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ou alors il faut 2 heures pour répondre. Ça n'est pas une infraction politique, puisque c'est qualifié terroriste à ce moment-là, voilà.
Très bien, je vous remercie à tous les trois pour ce débat. Arié Halimi, avocat vice-président de la Ligue des droits de l'homme, Olivier Kahn, professeur de droit pénal à l'Université de Nanterre, et Alain Marceau, ancien chef du service central antiterroriste, magistrat du parquet lors du procès de Georges Ibrahim Abdallah, et également ancien député UMP, devenu Les Républicains de la 10e circonscription des Français de l'étranger. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission, Théa Corlaire, Aloïs Guérin, voilà, j'ai perdu mes papiers, Vivian Lecuivre à la réalisation et la technique ce soir d'Ali Yaha. Quant à nous, on se retrouve à lundi 18h15 pour une autre question du soir qui sera consacrée aux évolutions politiques internes de l'île de Taïwan. Bonne soirée, très bon week-end sur France Culture.